Point de vue, le magazine de Radio Grand Ciel qui vous donne à penser. Point de vue vous est présenté par Dominique Desmichel, Olivier Lestis, Pascal Lorest, Gabriel Seban et votre serviteur Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe, pour vous accueillir à bord de Point de vue, l'émission mensuelle de Radio Grand Ciel, qui vous donne à penser, réagir, râler, pourquoi pas. Autour de moi, mes vieux complices, vieux mais fringants, je le précise, Olivier Lestis, libraire à Chartres, spécialiste des sciences humaines, Dominique Desmichel, psychanalyste jungien, et Gabriel Seban, psychosociologue. Le quatrième mousquetaire de l'émission, notre ami ethnologue Pascal Lorest, n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Il s'en excuse et nous lui pardonnons, j'en suis sûr. Point de vue est enregistré en public depuis l'amphi de l'antenne scientifique universitaire de Chartres, dont nous remercions pour son hospitalité la directrice, Madame Fouillol. Dans la seconde partie de l'émission, tu pourras, cher public, intervenir sur le mode civilisé, bien entendu, coups et blessures interdits, injures proscrites. En revanche, une certaine véhémence est tolérée à condition d'y mettre les formes, bien entendu. Le sujet du jour, nos amis, les bêtes, qu'elles soient sauvages ou domestiquées, des bêtes à qui l'homme fait la misère. Mais le contraire est aussi vrai, il arrive aux tigres et aux requins de se laisser tenter par une petite cuisse d'hominidée, comme moi, par un lapin à la moutarde. Je dis bien moi et non pas nous, car je subodore qu'il y a dans cet amphi des adeptes du végétarisme et peut-être même des habitants de la planète végane. Ne sont-ils pas de plus en plus nombreux ceux qui dénient à l'homme le droit au civet, à la gibelotte, voire au cassoulet? Bref, vous l'aurez compris, nous allons sans doute parler aujourd'hui d'animalisme, d'antispécisme. Cette édition de Point de vue risque fort de faire des étincelles. Et pour commencer, je suis sûr qu'Olivier Lestis va faire des étincelles avec sa rubrique littéraire.
Oui, alors c'est une émission pour parler des animaux, des humains, ou plutôt des rapports qu'ils entretiennent. C'est important. Les animaux, c'est notre autre privilégié. S'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait pas d'animaux, et vice-versa, puisqu'un mot n'existe que dans ses rapports avec d'autres mots. Donc soyons reconnaissants envers cet autre de faire exister le couple homme-animal. Sans les bêtes, nous, humains, ne connaîtrions qu'une existence vacillante, incertaine, et nous douterions de notre permanence, sauf à rencontrer un hypothétique extraterrestre pour lequel, la littérature nous l'indique souvent, nous ne serions peut-être à notre tour que des bêtes, tant leur technologie nous dépasserait. Ainsi, pendant des millénaires, l'animal connut un statut assez proche du nôtre, un autre qui a pu même parfois atteindre au statut de divinité. Où en serions-nous aujourd'hui d'ailleurs si, plus récemment, au XVIIe siècle, dans son discours de la méthode, partie 5, les lettres, Descartes n'avait pas bouleversé ce destin commun et fait de l'animal une machine, remisant la bête au rang d'objet ou au mieux d'être non doué de raison. On ne dira jamais assez ce que l'élevage intensif doit aux philosophes du XVIIe siècle. Les choses vont de mal en pis assez vite et au XIXe, c'est carrément la guerre. Sans doute parce que non raisonnable, voilà que Moby Dick, d'Herman Melville, relève le gant et ouvre le champ de la passion haineuse, peut-être du dépit amoureux, qui sait, dans ses relations houleuses avec le capitaine Ahab. De tempête en tempête, Édouard Prendick, encore un Dick, fait aussi naufrage et parvient ainsi sur l'île du docteur Moreau, d'H.G. Wells, où le docteur s'essaie au perfectionnement de l'œuvre divine en transformant les animaux en hommes, ce qui en fait des monstres. Il aurait dû songer que devenir l'autre, trop vouloir conformer l'autre à soi, l'empêcher d'être autre, finalement, ne peut conduire qu'à la folie. Mais c'est sans doute au XXe siècle que l'homme se prend vraiment pour Dieu. Il s'éloigne de la terre, il disparaît, il devient même un mythe en débarrassant le plancher pour laisser aux chiens, qui continuent à faire exister l'homme dans leur compte, leur religion, sans doute. Mais la religion des chiens n'est-elle pas déjà l'église de la gamelle et des câlins, de l'homme? Dans Demain les chiens, Clifford des Simac, les chiens évoquent cet Éden perdu. Les pauvres, on leur a tout fait, alors qu'ils nous aiment tant, eux, nos prothèses, nos amis, nos alliés, nos supplétifs, nos sacrifiés, notre meilleur OGM. Pour autant, ce milieu du XXe siècle n'est pas apaisé, car si notre autre ne l'est pas assez, s'il est trop proche, hein, pensons au docteur Moreau, les choses se compliquent à nouveau. La planète des singes, de Pierre Boulle, raconte assez bien comment d'une île on peut passer à une planète, comment la créature surpasse le créateur, l'élève dépasse et l'esclave surpasse le maître. Ici, on doit faire un retour au 19e avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui certes ne parle pas des animaux, mais anticipe les renversements de la domination avec sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave. À se demander si notre acharnement à faire disparaître le plus grand nombre d'espèces possibles ne tient pas à cette crainte terrible qu'à la fin, il nous remplace. Alors enfermons-les, tiens, conservons-les, mais de loin, derrière des grilles ou des barreaux attachés aux poteaux ou en laisse. Protégeons-les et protégeons-nous, inscrivons dans l'espace physique cette séparation dont nous ne sommes pas tellement sûrs, finalement. Et restons de notre côté, parce que le risque serait grand de nous demander, comme le fait Joyce Ormond dans son roman La peau de l'ours, ce que ça fait d'avoir été le roi des animaux. Avant le lion, nous raconte Michel Pastoureau, le roi des animaux, c'était l'ours. Puis donc de déchoir et de risquer la disparition, d'être réduit à un objet et de roi, donc, devenir nounours. Et gardons-nous de la confusion des consonnes chez l'enfant, à ce que ça ne soit pas au fond nous l'ours.
En résumé, il faut relire Moby Dick, Le discours de la méthode, La phénoménologie de l'esprit de Hegel, L'île du docteur Moreau et de Joyce Ormond, La peau de l'ours.
Oui. Voilà. Et Demain les chiens de Clifford des Simac. Mais on n'est pas obligé de les relire, on peut simplement les lire aussi. Hein.
C'est pas... oui. Pour mon cas, oui, à part Moby Dick. Messieurs, je voudrais vous poser une question pour commencer. Et pourquoi avoir choisi le sujet des animaux? Est-ce qu'il y a une urgence à parler aujourd'hui de la condition animale et des rapports de l'homme et de l'animal?
Moi, je dirais qu'il y a déjà une urgence, indépendamment de l'humain qui peut se jouer dans les capacités de sensibilité, il y a une urgence dans le fait que l'animal est aujourd'hui produit dans un but qui est le but de la satisfaction du besoin en nourriture humaine. 70% des terres sont cultivées pour les besoins animaux. Donc, ça pose quand même un problème par rapport à une durabilité, par rapport à une perspective déjà, indépendamment de la sensibilité qu'on peut avoir sur le vivant proprement dit. Voilà.
Moi, ce que ça m'évoque, c'est peut-être quelque chose qui serait un petit peu plus diachronique, qui est que, en tout cas à l'échelle de mon existence, je dirais, il y a la perception de certains... Il y a une perception qui a changé, et je vais partir de choses simples, c'est-à-dire pendant très très longtemps l'enfant a été considéré comme une sorte d'objet. Voilà, je rappelle souvent que Montaigne, dans une de ses lettres, il dit qu'il ne sait plus très bien combien il a perdu d'enfants. S'il y avait un père qui disait ça maintenant, je veux dire, probablement on l'enverrait ou à l'hôpital psychiatrique ou il aurait un procès. Voilà.
Est-ce que c'est pas parce qu'on mourait davantage, tout simplement, et fréquemment en bas âge?
Bien sûr.
Doit parler d'objet? Oui, le sentiment de l'être humain du père pour l'enfant, c'était un sentiment de...
Vous avez raison, mais... c'est peut-être pas un rapport d'objet, mais c'est en tout cas un attachement qui était relativement limité. Hein. On confiait les enfants à la nourrice, et quand on confiait un enfant à la nourrice, en tout cas à cette époque-là, on savait qu'il y avait juste au maximum une chance sur deux qui survivent. Hein, voilà. Donc au bout d'un certain moment, les enfants sont devenus des personnes. On a vu ensuite le même mouvement avec le fœtus et l'embryon, hein, qui ont été considérés comme des personnes. Voilà. L'embryon est une personne, hein, le bébé in utero est une personne. Donc je pense qu'il y a une continuité où de plus en plus il y a une sorte de réflexion sur le rapport qu'on entretient avec le vivant. Et peut-être on peut penser que c'est déjà un petit peu le cas maintenant, mais que peut-être qu'en quelques temps aussi, on va aussi approfondir le rapport qu'on a avec le règne végétal, par exemple.
Moi, je rajouterais quelque chose à ce que tu viens de dire, Dominique, c'est que, en fait, ce qui est en jeu, même si le terme objet est un petit peu abusif, mais ce qui est en jeu, c'est la relation à ce qui n'est pas nous. Ben alors, après, qui sommes-nous ? Et dans cette relation, fait-on réellement exister la forme, qu'elle soit objet ou qu'elle soit animal vivant, qui est en face de nous ? En fait, c'est un miroir qui nous interroge en fait sur nous-mêmes. Voilà.
Oui. Et est-ce que selon vous, les rapports entre l'homme et l'animal se sont améliorés au fil du temps ? Parce que c'est ce que vous sembliez dire, Dominique. En même temps, effectivement, l'élevage massif de volailles, on voit bien dans quelles conditions, semble dire le contraire. Mais nos rapports avec l'animal domestique, par exemple le chien-chien, sa mémère, le chouchou-chat, c'est...
Je ne sais pas si on peut dire qu'ils se sont améliorés. En tout cas, qualitativement, ils ont beaucoup, beaucoup changé. Mais dans tout un tas de sociétés traditionnelles, il y a un immense respect pour l'animal. Et par exemple, une chose qui m'avait frappé lorsque, à la librairie, on a reçu Bouglione, qui nous racontait une histoire sur les tigres. Et parce qu'en fait, il défend beaucoup cet animal. Il les a pendant longtemps dressés. Il a abandonné cette activité. Et puis, il nous disait donc qu'il finançait... la protection du tigre dans une région du Rajasthan, je crois, mais dans le public, on me corrigera si je me trompe, je pense. Et il expliquait à quel point le peuple qui vit là vivait totalement en harmonie avec les tigres, au point que lorsque, par exemple, il pose la question à des enfants là-bas de savoir si dernièrement ils ont vu un tigre, ils ont tous vu un tigre dans la semaine, quoi. Et le tigre ne s'est jamais... comporté de manière agressive avec l'humain, par exemple. Bon.
Il y a aussi des cas de tigres attaquant des villages, tout aussi.
Oui, bien sûr.
Non, mais ça existe aussi, je veux dire. C'est...
Bien sûr, mais c'est pour dire que le rapport avec l'animal, traditionnellement, n'était pas forcément un rapport compliqué, enfin un rapport désastreux. Et ce sont pourtant des gens qui mangent aussi de la viande, potentiellement, dans les sociétés traditionnelles, mais avec une forme de respect pour un animal qui apporte quelque chose et qui est donc justement quasiment divinisé. Aujourd'hui, on a un rapport extrêmement affectivé avec les animaux domestiques, et puis en même temps, si on parle des volailles, les conditions d'élevage des volailles qu'on mange sont absolument désastreuses, par exemple. Pas toujours, mais souvent. Donc, je ne sais pas, ça change.
Il y a une prise de conscience, il vous semble, non ? On sait que, par exemple, on le voit tout simplement en allant dans les supermarchés, il y a de plus en plus de poules élevées en plein air, etc. On voit que ça devient même un argument commercial. Hein.
Moi, je ne sais pas si on peut parler de prise de conscience. Je pense qu'on est sous une haute influence médiatique. Et le discours, j'en reviens encore à peut-être un discours un peu trop environnemental pour l'instant, mais je ne suis pas porteur de ce discours-là particulièrement, je le ressens comme tel. Quand on gave, par exemple, des bêtes, la production intensive génère automatiquement le besoin d'utiliser des antibiotiques, parce qu'en fait, la proximité, voilà... Mais ces antibiotiques, ensuite, se répercutent dans la nature et provoquent des résistances qui atteignent l'homme directement. Parce que si, effectivement...
La vache folle, par exemple, pour aller dans le sens de ce que tu dis, bon, voilà.
C'est... Bon. Alors, est-ce qu'on peut parler de conscience, du coup ? Parce que ça a un coût, quand même, tout ça. Ça a un coût au point de vue de la santé, ça a un coût économique, tout simplement, et puis ça a un coût sur le transport des ressources qui est sur le fonctionnel élémentaire, qui est se nourrir. Alors, à partir du moment où la machine du système se met en marche, effectivement, elle a les moyens de faire passer certains messages. Je ne parlerai pas pour autant de conscience, voilà, tout simplement.
Dominique.
Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a aussi deux clivages, moi, que je ressens. Le premier clivage, ça serait ce que vous nommiez tout à l'heure, la relation très affective on est dans la caricature, il ne s'agit pas de se moquer des gens, mais juste d'observer le phénomène. de la mémère et de son chien, le chien qui a son petit manteau, qui peut y avoir ses pantoufles, qui a son petit, voilà, qui a sa douche régulière, et peut-être on lui brosse les dents, enfin je sais pas très bien, mais si, si, mais je crois que si, il me semble que ça peut se faire. Donc dans une sorte,
on lui lime les griffes aussi, non?
Donc dans une sorte de lien extrêmement affectif. Et puis de l'autre, il y a un rapport avec les animaux considérés comme viande à consommer, qui est complètement, complètement clivé. C'est-à-dire tout le monde peut avoir un attachement vis-à-vis de, voilà, s'il y a un chien qui, ou un chat qui se fait renverser sur la route ou même dans une rue, en ville, tout le monde, enfin une majorité des gens vont être touchés. Mais de l'autre côté, il y a cette question de la viande qui est dans l'assiette, comme si au fond, le lien entre la bête et le morceau de viande était complètement gommé. Donc je crois qu'il y a deux clivages, c'est-à-dire il y a les animaux domestiques, c'est-à-dire ceux de la maison, ceux qui me sont proches, qui sont souvent considérés comme, oui, comme des espaces d'attachement extrêmement importants, où on peut dépenser des fortunes pécuniaires et des fortunes psychiques ou affectives dedans. Voilà, il y a des gens qui peuvent faire une authentique dépression lorsqu'ils ont perdu leur chien ou leur chat. Voilà, c'est une chose. Et puis de l'autre, de temps en temps, le sort des animaux en général nous est complètement, enfin, est complètement indifférent à ces gens-là. Premier clivage. Deuxième clivage, c'est je vais dépenser beaucoup d'argent pour nourrir mon chien ou mon chat ou mon poisson rouge ou mon serpent à la maison, mais je n'ai pas conscience que dans ce que je mange, dans mon assiette, c'est aussi un animal et qu'il est passé par un parcours dont on peut se dire quand même qu'il est peut-être extrêmement terrifiant, et dans un double lien, premièrement objectivement vis-à-vis de l'animal, et deuxièmement en tant que ce qu'il représente, nous, de notre lien à l'animal, c'est-à-dire toujours de notre intersubjectivité globale.
Oui, ça nous dit quoi de l'homme, le fait d'oublier que quand on mange un steak, c'est une vache qu'on a pu voir sur le bord de la route un jour?
Je citerai bien cette phrase de Lévi-Strauss en 1973, donc il y a 45 ans, si je compte bien, qui dit « En séparant l'humanité de l'animalité, l'homme a ouvert un cycle maudit. » Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement profond, c'est-à-dire on ne peut pas penser le rapport que l'on a à l'animal indépendamment du rapport que l'on a à l'autre. Enfin, c'était vraiment le texte d'Olivier au début qui nous rappelait tout ça, en disant tout ça est extrêmement lié, donc on ne peut pas séparer les deux, il me semble.
Oui. Puis par exemple, on peut penser que c'est anecdotique, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose de très important il n'y a pas si longtemps. Là, je vais parler de l'association L214, qui a posé des caméras, c'est-à-dire qui a donné à voir quelque chose qu'on cache.
Dans les abattoirs.
Oui, absolument. Des caméras dans les abattoirs, pardon. Oui. Mais, et ça, ça a été extrêmement choquant. Énormément de gens ont même refusé d'aller voir ces vidéos. Et ça rejoint ce que disait Dominique à l'instant, c'est-à-dire que le fait de cliver la viande et l'animal, de ne pas considérer que la viande qu'on a dans l'assiette est un animal. Je me rappelle d'enfants en classe primaire, lorsque j'étais instituteur, qui pensaient que les poissons étaient des objets carrés, panés, avec les yeux dans les coins, qui n'avaient même pas d'yeux, et qui ne faisaient pas du tout le lien avec les poissons qu'il y a dans la mer, par exemple, mais aucun lien. Et c'est pour ça que ces caméras posées dans les abattoirs ont vraiment fracturé quelque chose qui est une défense extrêmement forte, qu'on a tous plus ou moins construite, ne pas voir surtout d'où vient effectivement ce qu'on mange.
Et pourtant, pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, on tuait le cochon dans les fermes de France, dans toutes les régions de France. Donc on tuait le cochon et on faisait la cuisine immédiatement après. On avait donc quand même conscience qu'on mangeait, oui, un animal.
Mais c'était ritualisé, comme dans les sociétés traditionnelles. Et donc il y avait quelque chose d'une sacralisation de l'acte, etc. C'était très très différent comme rapport. Hein.
Un peu comme les Indiens lorsqu'ils tuaient un bison, ils demandaient pardon.
Voilà. C'est ça. Dans le monde entier. Tout à fait.
Et c'est bien important de se rappeler, juste là sur la question du rite, que le rite, c'est le premier rapport d'altérité. Le rite, il précède le mythe. Hein. Les hommes, ils ont inventé des récits pour savoir comment se comportaient les dieux, s'ils existaient, quel était le rapport, pour expliquer le monde. Mais on peut vraiment penser que avant qu'ils aient peut-être le langage même et la possibilité de créer des mythes, ils avaient des rites. Donc le rite, c'est quelque chose qui renvoie à une archaïcité et une efficacité extrêmement puissante. Donc tuer le cochon, ce n'est pas du tout la même chose que de manger des cuisses de poulet. Je rappelais que je crois que 50% de la classe moyenne américaine, les enfants, 50% des enfants de la classe moyenne américaine ne font absolument pas le lien entre ce qu'il y a dans leur assiette et le fait que ça appartient à un animal. C'est pour ça. Eux, ça n'a rien à voir. Même la dinde de Thanksgiving ou choses comme ça, voilà, il y a je ne sais pas combien de millions de dindes qui sont sacrifiées. Ils ne savent pas que c'est un animal qui court et qui est... Voilà, c'est étrange.
Oui. Hein. Oui, moi, je voudrais rebondir sur la notion de rite, parce que je crois qu'effectivement, on a là un premier tremplin de compréhension de ce qui peut se passer. Le rite, en fait, c'est plutôt l'inverse. On est dans une société qui fonctionne, donc il y a une fonctionnalité qui fait l'économie du rite. Et du coup, je dirais qu'on sépare la matière de l'esprit. Je vais prendre un exemple qui me semble parlant. C'est dans les formations en médecine ou en sciences naturelles. On fait des dissections. Je serais curieux de savoir qui, après avoir disséqué un vivant non